Le journal est présenté par Ezequiel Fernandez.
Bonsoir à tous. Des centaines de migrants jetés à l'eau par des passeurs entre la Corne de l'Afrique et le Yémen, Isabelle Labeyri nous racontera le scénario de l'horreur. Le Kenya attend les résultats définitifs de la présidentielle. L'opposition joue décidément avec le feu et déclare l'opposant Raila Odinga vainqueur. Bruno Meyerfeld a suivi cette conférence de presse du déni. La Corée du Nord et les USA continuent leur joute verbale. Pyongyang menace une base américaine dans le Pacifique. Washington promet l'apocalypse en cas d'agression. L'Europe hausse le ton vis-à-vis de la Chine sur la question de l'acier. Bruxelles revoit les droits d'importation à la hausse pour limiter l'effet dévastateur du dumping chinois. Marie Viennot détaillera pour nous ce mécanisme d'autodéfense. Pour la deuxième fois en deux jours, des dizaines de migrants sont morts. Morts noyés au large du Yémen. Le bilan pourrait s'avérer d'ailleurs beaucoup plus lourd à terme puisque 300 d'entre eux environ ont été carrément jetés à la mer par leurs passeurs. Hier et aujourd'hui, ces candidats à l'émigration, somaliens ou éthiopiens, espèrent en passant par le Yémen en guerre rejoindre un pays du Golfe. Et pour beaucoup d'entre eux, Isabelle Labeyri, le voyage s'arrête tragiquement au milieu du gué.
Ce sont les survivants qui racontent l'impensable. Alors qu'ils traversent le golfe d'Aden par grosse mer, leurs passeurs les poussent brutalement à l'eau parce qu'ils croient avoir aperçu des gardes-côtes. Les contrôles en mer ont été récemment renforcés. Mais la plupart des migrants ne savent pas nager ou sont trop faibles pour rejoindre le rivage. La scène, inhumaine, s'est produite deux fois depuis hier. Âge moyen des victimes, 16 ans, selon les humanitaires. La plupart de ces exilés fuient la famine de Somalie ou d'Éthiopie et pour atteindre les riches Émirats, promesse d'une vie meilleure, il leur faut traverser ce bras d'océan qui les sépare de la péninsule arabique. Certains d'entre eux racontent que les passeurs, délestés d'une partie de leur cargaison humaine, ont ensuite repris la route de la Somalie pour y charger de nouveaux migrants. La plupart des cadavres ont été retrouvés échoués sur la côte ou dans des tombes creusées à la hâte dans le sable. Depuis le début de l'année, environ 55 000 migrants sont arrivés au Yémen en provenance de la Corne de l'Afrique.
Les précisions d'Isabelle Labeyri. Au Kenya, l'opposition n'accepte pas la défaite alors que la commission électorale donne le président sortant, Uhuru Kenyatta, vainqueur avec un peu plus de 54% des suffrages. Les résultats définitifs seront connus demain. L'opposition exige en fait que Raila Odinga soit, je cite, « déclaré élu président de la République du Kenya ». Elle l'a fait savoir au cours d'une conférence de presse en fin d'après-midi à Nairobi, à laquelle vous avez assisté, Bruno Meyerfeld.
Mais Raila Odinga n'a pas dit un mot. Il est resté en retrait, le regard rouge, fatigué, l'air plutôt ténébreux, et a laissé ses lieutenants parler, comme son directeur de campagne, Musalia Mudavadi. Alors, pour résumer, l'opposition rejette aujourd'hui totalement les résultats provisoires publiés en ligne. Elle affirme toujours que le serveur de la commission électorale a été piraté le jour même du vote et affirme qu'Odinga a bel et bien gagné la présidentielle avec plus de 8 millions de voix contre 7 millions. À Uhuru Kenyatta. Les leaders de l'opposition demandent donc à la commission électorale tout simplement de déclarer Odinga vainqueur et à ses supporters de rester calmes, en tout cas pour l'instant. Alors tant pis si les procès-verbaux examinés en ce moment même par la commission électorale sont tous signés dans chaque bureau de vote par les partisans d'Odinga. Tant pis aussi si la commission affirme qu'aucun piratage n'a réussi le jour du vote. Et tant pis pour tous les observateurs internationaux qui ont déclaré dans la journée que les élections s'étaient plutôt bien passées. Pour Odinga et ses fidèles, en fait, plus c'est gros et mieux ça passe. L'opposition refuse d'ailleurs de dire d'où viennent ses propres chiffres. Elle affirme tirer ses informations, je cite, « de sources confidentielles à la commission électorale, sans donner plus de détails. Pour les leaders de l'opposition, il faut donc croire Odinga sur parole. Pour eux, c'est Raila ou rien.
Mais les résultats définitifs de la présidentielle seront connus en principe demain, une journée qui s'annonce d'ores et déjà cruciale pour le Kenya. Jusqu'où ira l'escalade verbale entre Donald Trump et Kim Jong-un, un feuilleton, celui de l'été, si l'on peut dire. Le président américain promet l'apocalypse, rien que ça. Il a défendu sa formule de mise en garde à la Corée du Nord, à qui il a promis le feu et la colère, vous en souvenez, estimant même que cette formule n'était peut-être pas assez dure. Auparavant, Pyongyang avait présenté son projet très détaillé de tirer une salve de 4 missiles au-dessus du Japon vers le territoire américain de Guam, dans le Pacifique. Il s'agit d'un avant-poste stratégique des forces américaines en ce secteur. En ligne de Washington, Philippe Rendet.
Ainsi va la vie aux États-Unis. Depuis hier soir, tous les médias ont les yeux rivés sur le compte Twitter de Donald Trump, le 45e président des États-Unis, qui pour l'instant n'a pas réagi aux nouvelles menaces nord-coréennes. Et le chemin de la diplomatie américaine semble de plus en plus étroit. Dans une maison blanche minée par les rivalités, c'est le nouveau bras droit de Donald Trump, l'ancien général des Marines, John Kelly, qui joue le rôle du médiateur apolitique. John Kelly qui enchaîne les meetings, les coups de téléphone pour essayer de déminer ce terrain dangereux. Mais la tactique dans l'administration Trump, si tactique il y a, est parfois difficile à suivre. Le chef de la diplomatie américaine, Rex Tillerson, joue le good cop, le gentil flic. Fervent partisan du dialogue et de la solution diplomatique, il a expliqué qu'il n'y avait pas de menace imminente. Mais au même moment, le chef du Pentagone, Jim Mattis, a lui endossé le rôle du bad cop, le méchant flic, en mettant en garde Kim Jong-un contre des décisions qui mèneraient, je cite, à la fin du régime et à la destruction de son peuple.
Autre abcès de fixation diplomatique. Dans cette partie du monde, la mer de Chine méridionale. Pékin n'a pas apprécié qu'un destroyer américain croise dans cette zone maritime qu'elle revendique. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères considère que les actions du destroyer américain ont violé les droits chinois et international et ont également porté gravement atteinte à la souveraineté et à la sécurité de la Chine. Washington estime, pour sa part, que ces missions maritimes visent à défendre la liberté de navigation dans le secteur face à la volonté de la Chine de contrôler la zone. 11. Nous en sommes maintenant à 11 pays européens concernés par le scandale des œufs contaminés au fipronil. Dernier en date, le Danemark, où 20 tonnes ont été vendues, des produits provenant d'un fournisseur belge. Les enquêtes ont abouti pour l'instant, notamment à l'arrestation aux Pays-Bas de deux dirigeants de l'entreprise qui a probablement appliqué le produit interdit, l'entreprise Chickfriend. On en sait un peu plus sur le suspect de l'attaque d'hier à Levallois-Perret qui a fait 6 blessés des militaires de la force Sentinelle. Cet Algérien de 36 ans n'était pas fiché S, il était inconnu de la justice et d'après son entourage ne présentait pas de signes de radicalisation. Blessé de 5 balles lors de son interpellation, il est toujours hospitalisé. Les enquêteurs donc n'ont pas pu l'entendre jusqu'à maintenant. Une partie de la loi de moralisation de la vie publique contestée par les députés Les Républicains, et cela au lendemain de l'adoption du second volet du projet de loi. Ils viennent de saisir le Conseil constitutionnel. Deux dispositions de la loi les indisposent. L'interdiction des emplois familiaux de collaborateurs pour les élus qui introduit, disent-ils, une discrimination à l'embauche. Et aussi l'imprécision du projet de création d'une banque de la démocratie destinée à financer des campagnes électorales. Elle est passée par ici, elle repasse par là. Elle, c'est la Chine dont je parlais tout à l'heure, premier producteur mondial d'acier. La Commission européenne vient de décider d'imposer des droits d'importation provisoires de 28,5% sur certains types d'acier chinois. Ce n'est pas la première fois qu'une telle surtaxe est imposée et d'autres pourraient suivre. Il faut dire, Marie Viennot, que la doctrine de l'Union européenne sur les règles anti-dumping est en train d'évoluer.
À l'origine de cette surtaxe, il y a une enquête demandée par les professionnels européens de la sidérurgie. Selon eux, ce type d'acier, plus précisément un acier résistant à la corrosion, était exporté en Europe par la Chine à des prix pouvant relever du dumping. Au terme d'une enquête, qui a pris donc plusieurs mois, la Commission européenne a estimé que ces affirmations étaient fondées et que les entreprises chinoises avaient été déloyales. Ce qui leur avait d'ailleurs permis d'augmenter leur part de marché en Europe de 93% quand la part de marché des entreprises européennes produisant ce même acier, elle, baissait de 17%. La liste des taxes anti-dumping sur l'acier chinois ne cesse de s'allonger en Europe et ailleurs d'ailleurs. Le problème est connu de tous. Depuis quelques années, la Chine produit plus d'acier qu'elle n'en écoule sur son marché intérieur, car sa croissance est en baisse, et elle écoule donc le surplus sur les marchés internationaux à des prix bradés. Un cas de dumping caractérisé, mais pour lequel l'Union européenne s'était toujours montrée plutôt timorée. Ces taxes anti-dumping sont en effet 10 à 20 fois inférieures à ce qu'elles sont aux États-Unis. Cependant, l'Union européenne est en train d'évoluer. De plus en plus critiquée pour sa naïveté dans le libre-échange, elle revoit depuis 10 mois toutes ses procédures anti-dumping pour les rendre plus faciles à appliquer. Le Brexit et la montée du vote anti-européen partout en Europe sont passés par là.
Entre-temps, des dizaines de milliers d'emplois auront disparu dans le secteur de la sidérurgie en Europe.
Les explications de Marie Viennot. 2016, année noire, très noire pour le climat. Confirmation avec ses records battus, qu'il s'agisse des températures, de la montée des eaux, des émissions à gaz à effet de serre. Le rapport annuel sur l'état du climat dresse un état des lieux alarmant. Un exemple, la fonte de glace et des calottes polaires a élevé le niveau des océans à un niveau record de 82 mm au-dessus de la moyenne enregistrée en 1993. C'est considérable. Une autre étude publiée par la revue américaine Science démontre qu'à cause du réchauffement climatique, les crues se produisent désormais avec plusieurs semaines d'avance dans l'ouest et le nord-est de l'Europe. Ça concerne aussi la France. Le risque de crues dévastatrices pourrait être multiplié par 20 d'ici la fin du 21e siècle. Retour à l'actualité immédiate avec la tendance météo pour demain. Après un démarrage en gris partout, de surcroît pluvieux à l'est, amélioration générale en cours de journée. Les températures ne sont pas de saison, c'est le moins qu'on puisse dire. Maximum 17 à 24 degrés, 26 à 30 pour les riverains de la Méditerranée. Fin de ce journal, préparé avec Brice Garcia, la console technique, Pierre Faucillon.